Bonjour et bienvenue dans le podcast Pensez la santé. Je reprends pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par la collégialité en santé. L'obligation légale du recours à la collégialité lorsque la discussion concerne un patient en fin de vie tend à limiter les risques d'une décision solitaire, d'un jugement trop hâtif ou d'un aveuglement lié à des convictions personnelles. Il s'agit de reconnaître que le soin prodigué par une infirmière ou un médecin a besoin de s'ancrer dans une réflexion partagée et explicitée dans le collectif des soignants. La procédure collégiale oblige à exposer des arguments et donc à les formuler et à entendre les remarques que les autres professionnels formulent. Elle constitue un moyen important de l'éthique en santé parce qu'elle engage les professionnels à réfléchir et à se confronter à d'autres points de vue que le leur. Le fait d'exposer sa perception et sa compréhension à des pairs ou à d'autres professionnels oblige à se questionner soi-même et à admettre qu'il y a d'autres manières de voir qui sont elles aussi valables. Il y a donc un fort intérêt à ouvrir la discussion sur une décision de manière à faire varier les points de vue et ainsi prendre en compte une multiplicité de sensibilités et de lectures de la situation du patient. La réflexion collégiale est un moment fondateur de la cohésion d'une équipe. En donnant la parole à tous les soignants, la réunion de concertation donne une occasion de manifester les doutes, les incompréhensions et d'échanger afin de lever certaines difficultés personnelles. La décision se fonde ainsi sur la réflexion, sur la variété des regards, et elle en est plus légitime. L'équipe de soins peut ainsi mieux accepter et comprendre une décision. Cette forme de cohésion rejaillit sur la qualité de l'accompagnement du patient et de ses proches. En ayant eu l'occasion de s'exprimer, de contribuer à la prise de décision et de mieux la comprendre, chaque professionnel peut se sentir partie prenante du soin plutôt que d'en être un spectateur, voire un exécutant. Mais que se passe-t-il en absence de consensus ou lorsque les proches d'un patient refusent la décision issue de la procédure collégiale? D'autres instances collégiales peuvent-elles contribuer à améliorer la réflexion? Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par la collégialité en santé, et je poursuis la discussion que nous avions commencée dans la première partie avec Émilie Gilbert-Fontan.
Bonjour, donc je suis Émilie Gilbert-Fontan, médecin dans un service de soins palliatifs au CHU de Toulouse.
Et Anne-Séverine Payet.
Bonjour, donc je suis infirmière, cadre de santé et j'exerce actuellement des missions de coordination territoriale.
Le moment de discuter une décision, c'est à chaque fois prendre le risque de rencontrer l'altérité des autres, c'est-à-dire se confronter au fait qu'il y a des points de vue profondément différents. La recherche d'un consensus, parce que c'est ça qu'on espère, je suppose, de ce type de démarche, entre tous les participants tellement différents entre eux, est-ce que trouver un consensus, c'est pas parfois un but difficile à atteindre? S'il y a une divergence insoluble de ces avis, c'est toujours au médecin de trancher? Comment ça se passe? Si on n'arrive pas à finir la réunion sur un moment où tout le monde dit « bon, c'est vrai que ça devrait être ça, ça apparaît comme la meilleure décision ».
Alors, quelquefois, ne pas prendre une décision, c'est aussi une décision. Donc, il y a certaines situations, certaines décisions qui peuvent être décalées dans le temps. Oui. Alors, ce n'est pas le cas de toutes. Et dans ce cas, en effet, il va falloir qu'il y ait une décision et ça sera le médecin référent en charge du patient qui devra le faire. Mais il aura pu bénéficier de ces discussions, des points de vue de chacun sur la situation.
Maintenant, je vous propose de nous intéresser à un autre niveau de la réflexion collégiale. Les réflexions qui sont menées dans le cadre des comités d'éthique, soit les comités d'éthique des établissements, soit les espaces de réflexion éthique régionaux. Le grand public entend parler de ces espaces de réflexion, surtout à l'occasion de communications, par exemple l'organisation d'une conférence, d'un débat. Mais ce sont également des lieux de réflexion sur des situations complexes. Alors, dans quel cas est-ce qu'on contacte le comité d'éthique de l'hôpital ou l'espace de réflexion éthique de la région?
En fait, il existe différents types d'instances éthiques avec des organisations différentes. Il y a des centres d'éthique clinique et en effet des espaces de réflexion éthique et des comités d'éthique dans divers établissements. Ils ne vont pas avoir le même rôle. Donc, les espaces de réflexion éthique, eux, ils vont plus être dans la diffusion de la culture éthique, dans la formation des professionnels, dans l'information aussi auprès du grand public. Mmh. Et par contre, les comités d'éthique, notamment, les comités d'éthique hospitaliers, par exemple, auront aussi ce rôle de diffusion au sein de l'établissement, d'information des professionnels de santé, mais ils pourront également répondre aux situations plus concrètes, complexes, des patients rencontrés dans la structure.
Et alors, les cas dans lesquels on y a recours, c'est quoi ? Par exemple, on ne trouve pas de consensus dans l'équipe de soins, alors on a recours à une plus grande extériorité, peut-être pour penser la situation, ou d'autres sites, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut amener à saisir le comité d'éthique hospitalier, par exemple ?
Ça peut être des situations très différentes. En effet, des situations qui, au sein d'une équipe, entraînent une tension sur le plan éthique, j'entends, hein, et qui, dans la réflexion à l'échelle de l'équipe, effectivement, n'a pas amené de consensus. Donc, on va en fait ouvrir la collégialité. Mmh. À d'autres professionnels de santé et à d'autres professionnels également. Il peut y avoir aussi des questionnements au sein de l'organisation de la structure, hein, des problématiques éthiques plus institutionnelles qui peuvent être discutées également au sein du comité d'éthique. C'est une de ses fonctions.
D'accord. Oui, alors c'est plus... C'est une autre type de regard, finalement. Ça peut être... ça peut aussi être bénéfique pour l'institution, finalement. D'ailleurs, les personnes qui composent ces comités d'éthique hospitaliers sont un panel beaucoup plus large, en fait, de soit de chercheurs, juristes, philosophes, soignants, mais ça peut être des soignants de toute spécialité, il me semble. C'est pas nécessairement en lien avec le service qui aura sollicité.
Oui, c'est tout à fait ça. Ça permet de garder l'intention de décaler le mmh. point de vue, de décaler le regard par des regards extérieurs à la situation. Donc effectivement, plus les membres qui constituent ces comités d'éthique vont venir d'horizons professionnels différents, et plus cette prise de distance et ce décalage du point de vue des professionnels qui sont au quotidien auprès du patient ou qui sont au quotidien impliqués dans la situation en question, si on fait référence à des modalités peut-être plus structurelles et organisationnelles, vont pouvoir obtenir des échanges et des points de vue différents des leurs et donc amplifier la réflexion.
Et puis il y a aussi ce regard de personnes non soignantes qui sont dans le comité d'éthique.
Oui.
Donc, et finalement, ça va confronter au regard de la société.
Et oui, on reproduit un petit peu. Oui, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, j'ai parlé des professionnels. Mais dans ces comités d'éthique, on a aussi les représentants des cultes, qui par exemple peuvent, ou même des représentants d'associations d'usagers. Bon, par usager, ici, on entend représentants de patients, représentants de proches de patients, qui peuvent aussi apporter un regard qui n'est pas directement celui des patients ou celui du patient concerné, par exemple, ou des proches concernés, mais qui est un regard un peu représentatif, on pourrait dire, de ces personnes qui vivent avec une pathologie, avec une situation complexe.
C'est ça, ça va décentrer du regard de soignant et vraiment ouvrir à d'autres horizons.
Mmh. Alors, j'ai une question à propos de ces comités d'éthique, c'est qui les sollicite ? Depuis tout à l'heure, je vous pose des questions qui concernent finalement, en quelque sorte, l'organisation et le cadre, mais je pense que pour les professionnels, c'est important parce que savoir qui peut solliciter ou qui peut être à l'origine d'une telle démarche, ça change l'appréciation qu'on en a, en quelque sorte. C'est-à-dire... est-ce que toute personne concernée par une situation complexe en santé peut contacter, solliciter un comité d'éthique ? Par exemple, est-ce qu'un proche de patient peut les contacter ? Ou bien un soignant, est-ce qu'un paramédical qui n'est pas cadre du service peut contacter, solliciter le comité d'éthique ? On revient à la question de la légitimité dont on parlait tout à l'heure, hein, parce que si vous dites oui, alors... c'est pas ancré dans la culture, peut-être.
Alors, j'aurais tendance à vous dire oui, dans la mesure où ce débat peut naître même en l'absence d'un cadre de santé.
Oui.
Et donc, il n'est pas nécessaire d'attendre que le cadre de santé soit présent pour pouvoir porter cette sollicitation auprès d'un comité d'éthique. Les comités des établissements, en tout cas ceux dont j'ai la connaissance, sont structurés de sorte à pouvoir laisser à disposition de l'ensemble des professionnels des formulaires qui permettent de structurer la sollicitation auprès du comité d'éthique.
Mmh.
Et donc, je pense que ces formulaires sont structurés de manière suffisamment claire pour qu'une équipe au sens large, et donc n'importe quel membre de cette équipe, puisse solliciter un comité éthique. Et c'est en cela que ma réponse est spontanément oui. N'importe quel professionnel, finalement, peut les solliciter. Après, je crois que ma réponse est également à moduler avec quelle sollicitation. Il y a la question de qui sollicite et il y a la question de quelle sollicitation.
L'objet, en fait, de cette sollicitation. Parce que, en fait, le comité, il prend connaissance de ces sollicitations et c'est lui aussi qui... Je pense qu'un des rôles des comités d'éthique hospitaliers, c'est de juger si la demande, elle le concerne ou elle ne le concerne pas. Parce que sans doute qu'il y a des demandes qui concernent d'autres instances et que dans ce cas, le comité d'éthique, il doit renvoyer. Mais ça n'empêche pas quand même d'aller frapper à la porte du comité d'éthique, peut-être pour avoir un conseil de à qui s'adresser pour ce problème qu'on rencontre dans son quotidien de soignant.
À la fois, il faut que le comité s'assure de l'objet de la demande et aussi de voir si l'équipe et dans cette volonté d'être dans une discussion aussi.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est effectivement en cela que je me permettais de préciser tout à l'heure que n'importe qui peut porter la nécessité collective de l'intervention d'un comité d'éthique.
Mmh.
Et ça rejoint ce que vient de préciser Émilie, c'est-à-dire que la démarche, elle peut être individuelle pour un conseil, pour une orientation vers une autre instance peut-être plus adaptée pour répondre à la sollicitation.
Mmh.
Mais si elle se veut être une réflexion collective, alors je crois qu'elle se doit d'être portée au nom du collectif et non pas au nom de la singularité qui se sentirait en difficulté dans un collectif. Mmh.
Chaque comité d'éthique a une organisation qui lui est propre, qui est définie par le règlement. Là, en tout cas dans celui auquel j'appartiens, tout membre de la communauté hospitalière peut saisir le comité.
Pour terminer, en réfléchissant à la place de la collégialité, je pense qu'on pense aussi au rythme du soin. Les soignantes que vous êtes sont sans cesse quotidiennement dans l'action, dans le respect des procédures, dans tous les enjeux de la clinique. Et cette temporalité intense du soin est ponctuée par ces moments de réunion où on prend le temps. Finalement, c'est vraiment une autre temporalité. On prend le temps de réfléchir à ce qu'on va faire pour soigner le mieux possible une personne ou l'accompagner. Or, la réflexion, justement, elle correspond à une autre temporalité qui met en suspens l'urgence, qui met en suspens le rush quotidien pour se poser, pour prendre du recul. Et prendre le temps de penser, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien des soignants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait justement offrir plus d'espace et plus d'occasions aux soignants de penser ce qu'ils font? Là, je ne pense pas forcément, d'ailleurs, à se réunir pour parler du cas d'un patient en particulier, parce que, pour le coup, même si ça fait partie des espaces de réflexion, il y a aussi des moments où on pourrait aussi réfléchir à quelles sont les valeurs qui portent notre quotidien, pourquoi on se retrouve ici, enfin... Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là.
C'est vrai que ces temps de réflexion, ils sont vraiment indispensables. De faire un pas de côté dans l'urgence du quotidien, dans le rythme, la temporalité du soin, c'est vraiment indispensable. Ce d'autant qu'en plus, ça peut aussi faire gagner du temps. Donc, on peut aussi le voir comme ça. Mais ça fait surtout gagner de la richesse dans le soin, que le projet soit vraiment plus adapté aux patients. Ça a de grands bénéfices pour l'équipe aussi, Donc, prendre le temps est indispensable. Mais c'est vrai que ça ne va pas du tout dans le sens des institutions et de la société.
Mmh. Et si je pose la question, mais peut-être que vous allez aussi ajouter quelque chose, Anne-Séverine. Si je pose la question, c'est aussi parce que il y a... Enfin, je ne sais pas si ça se ressent du point de vue du public, mais en tout cas, pour les personnes qui travaillent sur la santé en ce moment, il y a un enjeu très important qui est la santé des soignants dans l'exercice de leurs fonctions. Et il semblerait que cette santé, elle soit aussi liée au sens qu'on met dans son quotidien, dans son travail, à l'adéquation qu'on trouve dans les valeurs qu'on porte dans ses missions. Et peut-être que des espaces de réflexion, multiplier les espaces de réflexion, peut-être que ça aiderait dans ce cas-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'en suis tout aussi convaincue que vous. Je crois que penser le soin, c'est ce qui fait l'essence du soignant, quel qu'il soit soignant médical ou paramédical. L'attention portée à la réflexion de l'action, qu'est-ce qui guide mon action, quelles sont les valeurs qui portent ma présence tous les jours auprès des patients, c'est ce qui nous aide. En tout cas, c'est un élément, je pense, qui nous aide à pouvoir tenir dans nos professions au regard de tous les autres paramètres qui viennent s'adjoindre à cette nécessaire réflexion. Et je crois que multiplier les espaces de réflexion quand ils ont lieu d'exister, pour ne pas non plus noyer les soignants dans... C'est, ou perdre en tout cas les soignants dans des espaces de réflexion sur des temporalités qui se réduisent de plus en plus, c'est un moyen de laisser une bouffée d'oxygène aussi aux soignants, de partager des difficultés, de mettre en mots des difficultés et donc aussi de les conscientiser et peut-être aussi de rendre au métier du soin leur lettre de noblesse. C'est-à-dire de ne pas être exclusivement des techniciens. Oui, des techniciens, mais le supplément d'âme du soignant, quel qu'il soit, c'est aussi sa propension à réfléchir le soin, à lui donner du sens et à donner une âme au soin, finalement. Et quoi de mieux que des espaces partagés, quoi de mieux que de se confronter à des regards... et des points de vue diversifiés pour élever aussi la réflexion soignante entre nous et pour pouvoir se retrouver aussi sur ce qui fait sens collectivement pour nous, c'est-à-dire les valeurs que nous portons dans le soin.
Il y a une étude qui a été menée il y a longtemps maintenant, il y a 20 ans, en 2004, une étude a été menée dans 78 unités de soins intensifs en France. Elle a été publiée dans Critical Care Medicine, dont le titre était, on peut dire assez explicite, puisque c'était, je le dis en français, la moitié des proches de patients hospitalisés en unité de soins intensifs ne veulent pas participer au processus de prise de décision. Alors ça veut dire que si c'est la moitié, il y a une moitié qui ne veut pas et il y a une moitié qui voudrait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les proches souhaiteraient plus ou moins être associés à ces réflexions et comment ils le sont aujourd'hui?
Je pense que c'est éminemment complexe de pouvoir donner une réponse qui serait celle de la prise de parole à la place des proches. Chaque situation est unique, chaque vécu est unique et donc chaque capacité des proches d'un patient à pouvoir contribuer à une prise de décision se veut également unique. Il me semble que, en tout état de cause, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser la possibilité de laisser un espace propice à pouvoir contribuer à une prise de décision, à pouvoir partager un point de vue, à pouvoir déposer auprès de l'équipe pluriprofessionnelle une volonté peut-être à contribuer à la prise de décision. Ça, ça me semble en tout cas essentiel. Et puis, il y a un autre point qui me paraît important dans l'étude que vous pointez, c'est la notion des unités de soins intensifs. Je crois que la temporalité aussi des proches et la temporalité du patient, tout comme la temporalité des soignants, n'est pas la même lorsqu'on est confronté à des situations aiguës ou lorsqu'on est dans des situations d'accompagnement, de chronicisation de la pathologie.
Oui.
Puisque la,
sur la durée, quoi.
Exactement. La capacité à pouvoir réfléchir les conséquences de l'état de santé ne seront pas les mêmes selon le degré d'urgence de la situation ou selon la manière dont la situation va s'instaurer dans le temps. Et donc, je crois que, par voie de conséquence, la volonté des proches de participer à un processus de prise de décision de surcroît dans des unités de soins intensifs peut aussi être conditionnée par le caractère aigu de la situation ou la brutalité de la survenue, de la perte d'un état de santé, sans mesure nécessaire à moyen ou à long terme des conséquences que la pathologie et ou la décision d'interférer dans l'état de santé pourront avoir.
Et après, comment ça se passe au quotidien ? L'essentiel, c'est de surtout rester dans le dialogue avec les proches, d'être dans une discussion permanente avec eux. Et toute la difficulté au quotidien, ça va être à la fois d'essayer de recueillir le témoignage du patient, parce que c'est quand même eux, en effet, qui le connaissent le mieux, et tout en ne leur faisant pas porter le poids de cette décision qui doit rester une décision médicale, voilà, pour éviter les conséquences dans les suites et pour aussi essayer de lever la question des émotions.
Oui, c'est une manière de préserver finalement ses proches qui, même si sur le moment ils ont le sentiment que il est important d'entendre leur avis, évidemment, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être qu'ils ont le sentiment que leur avis devrait être suivi. C'est aussi les préserver dans le temps par rapport à cette responsabilité-là.
Et puis je crois, si je peux me permettre d'ajouter, que lorsqu'on est proche d'un patient, il est extrêmement complexe de se faire le porte-parole de la volonté du patient sans qu'interfère son propre avis. Et finalement, en tant que soignant, comme Émilie vient de le dire, ce qu'on a pour intention première, c'est de respecter les volontés du patient. Dans la mesure, bien sûr, d'un cadre réglementaire, encore une fois. Tout en tenant compte de l'avis des proches, qui sont ceux qui le connaissent le mieux, mais avec quand même l'intention première de respecter la volonté du patient. Et quand on est dans cette position de proche impacté de très près par la situation, je crois que dans la condition humaine, c'est extrêmement difficile de laisser sa part affective de côté pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle voudrait pour son état de santé ? Quand bien même, parfois, on ne l'a jamais discuté.
Oui.
Avant que la rupture de l'état de santé survienne. Et Émilie le pointait, porter après le poids de la responsabilité, c'est extrêmement difficile.
Oui, ça peut
être difficile en tout cas.
Oui, finalement, on voit qu'avec toutes ces démarches qui sont des démarches pour faire entrer l'éthique dans les soins, dans la pratique du soin, ce qu'on recherche, c'est dialoguer avec une sorte d'extériorité pour avoir un point de vue différent. Et c'est vrai qu'en tant que proche, ça, c'est difficile. Cette extériorité-là, elle est très, très difficile d'accès. Merci beaucoup, Émilie Gilbert-Fontan et Anne-Séverine Payet.
Merci.
C'était
à vous.
Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.